Le passage que nous allons commenter se trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 35, versets 4 à 17. Alors le livre d'Isaïe est un cas d'école parce qu'il se divise en trois parties, les chapitres 1 à 39, 40 à 55 et 56 à 66. Alors ici nous avons le nous sommes dans la première partie d'Isaïe. C'est une partie qui est attribuée au prophète Isaïe, mais dans le livre d'Isaïe, ce qui est un petit peu complexe, c'est parfois tout se mélange. Dans le livre d'Isaïe, à partir du chapitre 40, on attribue ça à un auteur inconnu qui s'appelle le Deutéro-Isaïe, et enfin, dans la troisième partie, le Trito-Isaïe sera un troisième auteur inconnu des chapitres 56 à 66. Mais en fait, une multitude d'auteurs a pu aussi contribuer. Et il s'avère, quand on lit le texte que je vais vous lire, donc, que ce texte d'Isaïe 35, eh bien, a été rédigé probablement par ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, ou quelqu'un qui a vécu à cette période. Parce que le livre d'Isaïe, les chapitres qu'on attribue vraiment à Isaïe, sont un petit peu, quand on les lit, un petit peu fouillis. Alors que quand on lit les autres, à partir du chapitre 40, les autres chapitres, c'est beaucoup plus monolithique, toujours cette idée que la libération va venir. Et ce chapitre 35, vous avez cette même idée. Donc je vais le situer parce qu'il date probablement du Deutéro-Isaïe. Je vais vous le situer par rapport à cette période. Mais avant de le faire, je vais vous lire bien sûr ce passage. Donc Isaïe 35, versets 4 à 7. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Alors, ici, on peut attribuer ça, comme je le disais, au deuxième, au Deutéro-Isaïe, parce que c'est classique du retour de l'exil. Donc, je l'ai déjà dit dans plusieurs enregistrements, notamment par rapport à Isaïe. Nous avons ici, donc, une prophétie qui s'adresse soit aux exilés qui sont tout juste revenus d'exil, aux exilés juste avant la période du retour de l'exil, et en fait, le prophète leur dit, eh bien, vous allez bientôt traverser le désert de Syrie, ce désert que vous traverserez va vous ramener dans la terre promise, vous qui étiez exilés à Babylone, et c'est pour ça que le texte utilise beaucoup d'images comme l'eau, etc., la terre de la soif en eau jaillissante. C'est déjà une leçon parce que quand on voit ce texte, eh bien Dieu est capable de faire surgir dans le désert de l'eau, donc Dieu est capable de l'impossible, comme l'a dit Jésus, à Dieu, rien n'est impossible. Donc, si toujours on se situe dans cette perspective, qui s'appelle la perspective historique, qui est basée sur ce qu'on appelle la méthode historico-critique, c'est une méthode qui essaye de retrouver le message de l'auteur original, eh bien, l'auteur originel aussi. Eh bien, ce message, c'est simple, il s'adresse aux exilés, on leur redonne espoir. Bientôt, après plus de 40 ans d'exil, le royaume de Juda est tombé définitivement en 587 avec la chute de Jérusalem. Environ 3000 personnes ont été exilées, beaucoup de Jérusalem et les notables aussi des provinces de Juda ont été exilés à Babylone. Et au bout d'une bonne quarantaine d'années, en 536-537, eh bien les Perses vont commencer à faire vaciller, puis tomber l'empire de Babylone, et ils redonneront leur liberté aux déportés, notamment aux Juifs. C'est raconté dans les livres de l'Ancien Testament d'Esdras et de Néhémie. Mais évidemment, pour ceux qui sont familiers de mes enregistrements, on va pouvoir aborder une lecture, disons, plus spirituelle. Mais déjà, cette lecture qui consiste à dire, voilà, Dieu promet aux exilés la liberté, est déjà une grande leçon parce que Dieu est celui qui peut t'offrir à toi, qui peut m'offrir à moi la liberté, alors que nous sommes comme des exilés sur cette terre, dans nos problèmes, etc. C'est déjà quelque chose d'énorme que le message originel de l'auteur nous révèle et nous livre pour notre plus grand bonheur. Mais écoute, revenons à ce texte en ayant un petit peu un regard plus spirituel. Alors, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Nous, chrétiens, nous avons ce rôle d'être des gens qui calmons les autres. Si nous sommes réellement chrétiens, voilà, si nous avons, comme le dit le texte, voici votre Dieu, ne craignez pas, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Nous, chrétiens, nous avons une relation personnelle à Dieu, et nous savons que ce monde n'est que l'antichambre d'un autre qui est vraiment le monde réel, le monde de l'invisible. Quand on dit invisible, c'est bien sûr le monde d'après la mort, et aussi les anges, etc., le monde de Dieu, mais c'est aussi le monde de l'intérieur de l'homme. Eh bien, nous savons, nous chrétiens, que Dieu est dans ce monde invisible, qu'il travaille dans les cœurs, et puis qu'il prépare l'humanité, qui prépare nos vies à sa grande rencontre dans le monde invisible. Alors, c'est pour ça que nous avons du recul, nous devons avoir du recul par rapport aux aléas de cette vie. Et nous, chrétiens, pour nous, la vie n'est pas une succession d'événements sans liant qui produisent en nous des effets d'euphorie ou de dépression. Si nous avons effectivement notre vie ancrée en Dieu, par une vie de prière, par une relation personnelle à Dieu, c'est ce que nous offre Jésus-Christ. Il vient lui-même et va vous sauver. C'est Jésus, Dieu sauve, c'est ce que veut dire son nom. Par Jésus, Dieu prend corps, c'est au sens littéral, il s'incarne. Et donc la relation à Dieu, eh bien, est une relation qui prend corps, qui devient concrète. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons cette possibilité de relation à Dieu, et cela doit nous donner une grande paix, comme je viens de le dire, parce que nous devons relativiser tout ce qui arrive sur cette terre, tout ce qui arrive dans nos vies, et nous avons ce rôle apaisant vis-à-vis des autres. Nous sommes donc chargés de calmer, d'apporter la paix aux autres, à l'image de Jésus qui disait « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Donc nous avons ce rôle que nous pouvons bien sûr remplir par le témoignage en parole quand l'occasion s'y prête, quand nous sentons que les gens sont mûrs, par notre témoignage, qu'il existe autre chose que cette vie, qu'il existe un Dieu qui nous aime infiniment, qui nous a donné la possibilité en son Fils, en son Verbe, par son incarnation, d'avoir une relation vraiment concrète et personnelle, ce Dieu qui a pris visage humain. Mais parfois, de dire aux gens qui s'affolent « prenez courage, ne craignez pas », eh bien, c'est tout simplement nos actes et notre prière, notre intercession, qui sont comme des paroles qui travaillent dans l'invisible, qui permettent à Dieu de venir lui-même et de sauver ces gens. Parce que les gens nous regardant vivre, parce qu'ils sauront tôt ou tard que nous sommes chrétiens, eh bien, c'est comme un message qui va aller jusque dans leur cœur et qui criera bien plus fort parfois que des témoignages en parole. Et puis, notre prière, qui est vraiment le plus efficace de tout, parce que c'est une porte ouverte que nous offrons à Dieu pour travailler dans les cœurs des hommes, au cœur de l'humanité. Oui, nous sommes hommes, comme le dit Saint Paul, nous apportons un surcroît d'humanité, nous complétons dans notre chair ce qui manque aux souffrances de Christ. Ce que dit Saint Paul a l'air bien mystérieux, mais cela veut dire simplement que ce soit un prolongement de l'incarnation de Jésus, qui s'est fait homme pour qu'un homme puisse libérer les autres hommes tout en respectant leur liberté, car le seul moyen de respecter la liberté des hommes, c'est qu'un homme sauve d'autres hommes. Eh bien, dans nos situations concrètes, quand nous prions, quand nous aimons des gens, nous sommes comme un prolongement de cette croix que Jésus a plantée sur cette terre pour qu'un homme, et donc par cette croix, par nous qui sommes disciples, qu'un homme et donc des hommes sauvent d'autres hommes en permettant à Dieu de déverser sa grâce. Ben, voilà un message que nous pouvons livrer aux gens qui s'affolent par notre prière, nos actes, notre charité, et bien sûr, quand l'occasion s'y prête, nos paroles. Allons plus avant dans ce texte. Donc, cette revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Donc, c'est une préfiguration de Jésus-Christ, d'ailleurs qui va citer plus ou moins ce texte, hein, les boiteux marchent, les aveugles, etc., voient, je crois que c'est dans Luc chapitre 4, quand il lit cette prophétie d'Isaïe à Nazareth, eh bien, Jésus se l'approprie. Donc, si vous voulez, Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver. Alors, c'est une leçon parce que quand nous sommes confrontés à des gens indifférents à Dieu, etc., eh bien, plutôt que de crisper, plutôt que d'être découragé, parce qu'on a l'impression que les moyens humains ou le témoignage, etc., ne suffiront pas à les amener à Dieu, souvenons-nous, ne nous affolons pas nous-mêmes, c'est aussi un autre message, ne nous affolons pas nous-mêmes, calmons-nous et laissons donc Dieu agir. Comment dire, en optant, en choisissant une action plus discrète qui sera basée sur la prière et le témoignage d'amour qui est par définition silencieux. Mais c'est le seul moyen que nous avons très souvent pour que Dieu lui-même vienne sauver en son Fils l'humanité, son Fils qui a été discret dans un petit pays du monde qui est la Palestine, qui a surtout planter les germes du salut par sa croix, par sa prière, lui qui passait des nuits en prière. Et puis nous-mêmes, c'est comme si nous disions ce message à nous-mêmes, ne nous affolons pas. Quand nous sommes dans la dépression, quand nous sommes tristes, quand les choses ne vont pas, écoutons cette parole de Dieu, ne t'affole pas. Dites aux gens, c'est un peu nos soucis, ces gens, hein, si vous voulez. C'est une interprétation morale que les pères aimaient bien. Centrer le texte sur l'intérieur du cœur. Eh bien, ces gens qui s'affolent sont nos soucis, nos pensées. Ne t'affole pas. Prends courage, soyons patients, laissons Dieu agir, plutôt que d'essayer dans la précipitation de solutionner nos problèmes nous-mêmes. D'abord, prions et ensuite agissons. Je voudrais insister sur cette revanche de Dieu. Ici, nous avons un passage clé de l'Ancien Testament. Parce que très souvent, quand l'Ancien Testament parle de la vengeance de Dieu, c'est pour l'auteur, en tout cas de l'époque, c'est littéral. Bien sûr, nous-mêmes, dans les psaumes, nous pouvons christianiser tout ça en pensant vengeance égale action de Dieu, donc amour. Mais c'est bien la première fois, à ma connaissance, que dans l'Ancien Testament, eh bien, l'auteur lui-même a eu cette révélation. C'est le message de Dieu a, comment dire, a mûri. Et enfin, eh bien, dans l'Ancien Testament, on comprend que la revanche de Dieu, ce n'est pas forcément la colère et la punition. Mais c'est le salut. C'est ce que dit le texte très explicitement. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. La vengeance de Dieu, c'est le salut. Et ça éclaire d'autres passages parce qu'après, nous pouvons effectivement légitimement lire même des passages qui littéralement appellent la vengeance comme une occasion d'être le salut de Dieu. Alors, je voudrais vous citer, c'est tiré du livre des Proverbes au chapitre 25 et c'est surtout repris par saint Paul qui explique en Romains chapitre 12. En substance, si vous voulez, saint Paul, reprenant le livre des Proverbes, dit qu'il ne faut pas se venger et laisser la vengeance à Dieu, parce que en pardonnant, en faisant du bien à notre prochain, nous amassons comme des charbons ardents sur sa tête. Eh bien, je crois que là, nous avons la solution du pardon. C'est ce qu'Étienne avait bien compris dans les Actes des Apôtres, en pardonnant. Nous libérons une source de grâce qui va agir bien plus profondément envers nos offenseurs qu'en nous vengeant. Et tout simplement, Étienne, en pardonnant, notamment à Saül, qui tenait les habits de ses bourreaux à ses pieds pour qu'il puisse mieux lui jeter des pierres, eh bien, il a contribué à ce que ce Saül et cette fameuse révélation sur le chemin de Damas deviennent ce grand saint Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps après Jésus-Christ. Eh bien, voilà. Donc nous-mêmes, pensons à ça, laissons la vengeance à Dieu, c'est-à-dire prions pour nos frères, notamment ceux qui nous ont offensés, et sachons que cette prière, cet amour, cette charité que nous développons par la prière et par les actes, s'il nous est donné de pouvoir agir concrètement pour aimer ses frères, eh bien va davantage permettre à Dieu de transformer les gens que notre vengeance. Ou alors si c'est pas quelqu'un qui nous a offensé, mais notre action, disons, qui est souvent basée sur la persuasion, la force, parce que ça ne touche pas à l'intérieur des cœurs. Et le texte continue. Si nous laissons Dieu agir en nos propres cœurs, quand nous avons des soucis, dans le cœur de nos frères, en optant pour la prière et la charité, et en comptant sur Dieu davantage que sur nos propres forces, Eh bien, voilà ce qui se passe. Il s'ouvre, les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds, le boiteux, etc. Nous touchons en profondeur le handicap des gens. Nous touchons en profondeur ce qui les handicape, ce qui les coupe de Dieu. Et alors ils s'ouvrent à Dieu et donc ils s'ouvrent aux autres. De sourds ils entendent, d'aveugles ils voient. C'est non seulement une ouverture vers Dieu, mais quiconque s'ouvre vers Dieu s'ouvre, voit et entend les autres. Quelle erreur de penser que s'ouvrir à Dieu, c'est se couper du monde. Je ne critique pas les moines parce qu'ils sont très ouverts au monde dans leurs prières, justement. Donc être ouvert à Dieu, prier, ce n'est pas contre la charité, mais ça dynamise notre charité, ça nous dilate le cœur pour que nous voyions et entendions mieux les souffrances des autres. Et le texte continue, l'eau jaillira dans le désert, etc. Le pays torride se changera en lac. Dieu est capable, et comme il dit, le ter de la soif se transformera en eau jaillissante. Dieu est capable, lui seul, de faire jaillir dans le cœur, dans notre propre cœur d'abord, l'eau jaillissante de l'Esprit Saint. Il est capable de, dans les pires déserts, dans les pires difficultés, de venir à notre aide et de tirer du bien du mal, comme il le dit en Genèse chapitre 50. Je crois que c'est le verset 10 ou 20, où Joseph dit à ses frères, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Dieu est capable de ça. Il est aussi capable, donc, dans nos cœurs, de nos difficultés, de tirer du bien. Dieu est capable aussi dans les frères pour qui nous prions et pour qui nous aimons et que nous aimons. Faisant ainsi confiance à l'action de Dieu plutôt qu'à nos propres forces. Eh bien, l'action de Dieu aura un impact bien plus puissant, pourra faire des miracles dans le cœur de nos frères que nous ne pourrions jamais atteindre par des moyens extérieurs de pression, où on essaie de convaincre, de persuasion. C'est ça. Il faut bien comprendre. Et c'est ça le grand message aussi de ce texte, que pour agir en profondeur, il faut pouvoir agir dans l'invisible du cœur, dans l'invisible de ce qui se passe en ce monde, et Dieu seul peut le faire. Et nous avons, nous chrétiens, ce levier de permettre à Dieu d'agir plus efficacement, ou je pourrais dire plus intensément plutôt, plus intensément dans l'invisible, par notre prière, permettant à Dieu d'agir plus ouvertement dans ce monde et dans le cœur de nos frères, dans notre propre cœur, parce que nous, en priant, nous lui donnons un espace de liberté, parce que Dieu aime, et que si Dieu aime, il veut tout faire en respectant la liberté. C'est bien pour ça que la revanche de Dieu n'est autre que son amour. Donc la grande leçon, mes frères, la grande leçon pour toi et pour moi, c'est que ne comptons pas d'abord sur nos propres forces, mais sur la prière. Ne comptons pas sur la persuasion, la force, mais sur la charité nourrie par la prière. Dans nos soucis, pour nos propres problèmes, pour ceux de nos frères, pour leur conversion, pour la conversion de ce monde. Et voilà comment nous aurons un impact bien plus grand, parce que au lieu de faire confiance à nos propres forces, nous faisons confiance à la grâce. Nous sommes comme une porte qui fait jaillir l'invisible dans le visible. Et l'invisible n'est autre qu'une personne, Dieu lui-même, qui vient nous sauver. Voilà. Alors je vous propose maintenant une petite prière, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, d'abord merci parce que tu es ce Dieu tendre qui agit dans la douceur et non pas par la force. Apprends-nous à nous revêtir de ce vêtement, à devenir des doux, comme l'a dit Jésus, heureux les doux car ils posséderont la terre, ils posséderont le cœur de leurs frères. Oui, apprends-nous à être des doux, c'est-à-dire à opter, à choisir la charité et la prière plutôt que la force. Oui, vraiment, Seigneur, fais de nous des portes ouvertes sur l'invisible. Oui, vraiment, que par nous ta grâce se déverse dans le cœur de nos frères et en ce monde. Oui, que nous soyons toujours davantage convaincus que nous aurons plus d'impact par la prière et la charité que par tout autre moyen qui te gommerait et qui nous mettrait en avant. Et enfin, Seigneur, dans nos propres soucis, nous te demandons d'agir et de nous aider d'abord à être patients et à laisser agir ta grâce, à agir sans précipitation et à compter davantage sur toi que sur nous. Amen. Et j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.